Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est le député UMP Éric Ciotti qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Éric Ciotti.
Bonsoir.
Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24, Alain Onfray du quotidien Libération. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur le retour annoncé de Nicolas Sarkozy qui se fait toujours attendre, même s'il n'y a, semble-t-il, plus aucun suspense. En un mot, Éric Ciotti, c'est sûr, Sarko revient, il prend la tête de l'UMP, en vue bien sûr de la conquête de 2017, même pour le fioniste que vous êtes, ça ne fait plus aucun doute.
Vous l'avez dit, je crois qu'il n'y a aucun suspense, en tout cas il y a un faux suspense aujourd'hui. Manifestement, la décision de Nicolas Sarkozy de retourner en politique et de retourner par l'UMP, ce qui est plus surprenant, est prise.
Voilà, on fera les commentaires et on y reviendra longuement dans la deuxième partie de l'émission pour commencer gros plan, bien sûr, sur la chaude rentrée politique dans un climat extrêmement dégradé pour le gouvernement. Les députés, vous-même, Éric Ciotti, avez repris ce matin le chemin de l'Assemblée à une semaine d'un vote de confiance crucial. Le Premier ministre Manuel Valls est à nouveau aux prises avec les frondeurs de son propre camp et il a dû ce matin à nouveau les appeler à la responsabilité.
Face à une situation politique très dégradée en France et vous en connaissez les causes, nous devons tenir. Nous devons être à la hauteur de cette situation internationale européenne, être à la hauteur de la situation en France. Il y a tellement de doutes, tellement de défiance, une telle crise de confiance dans notre pays. Il faut être capable de gouverner dans la dignité et en tenant évidemment le cap qui est celui du redressement du pays. Et moi je suis convaincu que tous les députés socialistes sont conscients de cette réalité. À chacun d'entre eux d'être à la hauteur de la responsabilité. Il ne peut pas en être autrement.
Et voilà donc pour le rappel à l'ordre du Premier ministre Manuel Valls face à des députés frondeurs qui entendent donc s'abstenir collectivement mardi prochain. Éric Ciotti, vous croyez à ce scénario catastrophe d'un refus de confiance qui pourrait entraîner une dissolution, une sorte d'arakiri d'une partie des députés socialistes ?
Non, sincèrement, je n'y crois pas. Je pense que Manuel Valls aura, de la part de la majorité, une confiance. On a l'impression un peu qu'il joue à se faire peur. On voit bien qu'il y a aussi une stratégie de communication, de dramatisation. Manuel Valls utilisait des mots que je pourrais approuver. Il disait il y a une crise de confiance dans le pays. Bon, le diagnostic, naturellement, il est pertinent.
Il dit même dont on connaît les causes. Hein, on va y revenir.
Il faut gouverner dans la dignité. C'est là que j'ai envie de lui dire chiche. Il y a beaucoup de chiche en ce moment. Mais je dirais aujourd'hui, où est la dignité ? Où est la dignité ? Où est la dignité de la part de cette majorité qui éclate dans tous les sens ? Où est la dignité lorsqu'on nomme des ministres qui ne paient pas leurs impôts, qui ne font même pas de déclaration fiscale et qui sont contraints de démissionner quelques jours après ? Où est la dignité quand on voit un président de la République contraint à un sommet de l'OTAN qui traite de sujets majeurs, qui engage la paix du monde, contraint de s'expliquer sur le déballage de sa vie privée dans un ouvrage. Voilà, j'appelle moi aussi le gouvernement à la dignité, comme vient de le faire le Premier ministre, si ce n'est que c'est lui qui est en responsabilité et que c'est lui qui a la charge de gouverner avec dignité.
Est-ce que mardi prochain, dans le fond, dans l'hémicycle, ce ne sera pas plutôt un congrès du Parti Socialiste qu'un débat national ?
Je crois que cette majorité, ce président de la République et ce gouvernement se sont trompés simplement de République. Vous avez raison, quelque part, ces combinaisons de couloirs, je regardais ce matin devant l'Assemblée nationale, tout le monde attendait les conciliabules qui se déroulaient pendant la réunion du groupe du Parti Socialiste au troisième sous-sol de l'Assemblée nationale. On voit bien que désormais, le cœur de la vie politique se joue dans les combinaisons de couloirs des différents courants du Parti Socialiste. Ça nous ramène à une autre République. Et je crois que ce gouvernement, ce pouvoir, et tout simplement François Hollande, se sont trompés de période. Quelque part, on est déjà plus dans la Ve République, avec la force et l'autorité d'un gouvernement qui a la confiance d'une majorité. on est aujourd'hui dans un gouvernement qui ne sait plus où il va, avec une majorité qui ne sait plus s'il faut le soutenir ou pas.
Mais, Alain Frey. Mais vous-même, vous ne pouvez pas rester spectateur. Une fois que vous avez dit ça, vous allez entendre le discours du Premier ministre. La question se pose de confiance, pas confiance. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin à la réunion des députés UMP, mais comme on peut faire l'hypothèse que beaucoup de choses qui seront dites vont dans le sens de ce que vous souhaitez pour le pays, comment vous allez vous comporter ?
Je répondrai à votre question par une autre question. Comment, dans cette situation, comment face à cette déroute économique, mais aussi faillite morale, comment accorder notre confiance à un tel gouvernement ? Bien entendu, nous nous opposerons à ce gouvernement avec force. Nous ferons notre travail d'opposition, mais nous le ferons avec encore plus de détermination, plus de conviction que la situation du pays est aujourd'hui épouvantable. Les indicateurs économiques sont au rouge. Nous avons franchi, il y a une quinzaine de jours, je crois, le cap des 2000 milliards d'euros de dettes, 60 000 entreprises en faillite, 5 400 000 chômeurs pour la France aujourd'hui. Si on compte les catégories 4 et 5, on est à 6 millions de personnes qui sont en recherche d'un véritable emploi, un déficit budgétaire qui sera sans doute supérieur en 2014 à 2013, des impôts qui ne cessent d'augmenter, et sans parler de la faillite morale. J'y reviens parce que c'est important. Ce qui choque les Français aujourd'hui, c'est à la fois le livre de Madame Trierweiler. J'ai un peu scrupule à en parler parce que ce livre, sincèrement, n'est pas quelque chose de très ragoûtant, j'oserais l'expression. C'est même quelque chose qui, personnellement, me provoque une forme de nausée. Mais il y a des conséquences politiques qu'on ne peut pas nier. Et puis, il y a cette affaire Thévenoud, après l'affaire Cahuzac, le même monsieur Thévenoud qui a joué un rôle important dans la commission qui était censée vérifier comment s'était déroulée cette affaire
Cahuzac. Vous réclamez toujours sa démission, député Thévenoud. L'UMP va lancer une commission, enfin réclame en tout cas une enquête fiscale.
Bien sûr, je crois qu'il y aurait une logique et une forme de dignité, tout simplement, de sa part à ce qu'il ne siège plus sur les bancs de l'Assemblée nationale. Là encore, cette affaire a beaucoup choqué les Français. On est au moment où nos concitoyens, ou chacun d'entre nous d'ailleurs, a reçu sa feuille fiscale d'imposition, paye pour beaucoup le troisième tiers, au demeurant très lourd, beaucoup plus lourd cette année que l'année dernière. On voit qu'il y a 1 million de Français qui ont demandé des délais. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Que M. Thévenoud, ministre de la République, ne déclarait pas ses impôts à des impayés de loyer. Et en même temps, il donnait des leçons, comme M. Cahuzac d'ailleurs. Comme M. Cahuzac. Donc, ça crée quoi comme sentiment dans l'opinion publique ? Ça altère, ça érode, ça effondre la crédibilité de la parole publique. Désormais, on est tous mis dans le même sac. C'est terrible. Donc, je dis oui, des personnes qui sont à l'origine de cette rupture, de cette faillite morale, n'ont pas leur place dans le débat public.
Mais là, vous êtes dans l'écume des jours. C'est vrai, vous n'avez pas tort, il y a une faillite morale, mais elle ne date pas de l'arrivée de Thomas Thévenoud au gouvernement, ni à la gauche. Ça a commencé il y a des décennies.
On n'a jamais assisté, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, à de tels événements, à des ministres mis en cause de cette façon, qui mentent devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, qui fraudent, qui dissimulent. Je crois que c'est quand même inédit cette ampleur.
Oui, alors ma question c'était, est-ce que vous n'êtes
pas gré... Ce qui n'excuse
pas
d'autres comportements, mais vous avez
raison. Est-ce que vous n'êtes pas gré, tout de même, à Manuel Valls et même François Hollande, de faire quand même une mue idéologique, c'est-à-dire il y a toujours eu un problème chez les socialistes entre l'action gouvernementale et l'idéologie, c'est-à-dire le réalisme qui se percute au milieu. Aujourd'hui, les socialistes semblent en quelque sorte se démarxiser et de faire une politique plutôt sociale libérale. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites pas quand même c'est historique et faut accompagner peut-être ce mouvement, notamment en faveur des entreprises, donc de la croissance. Est-ce que vous faites pas la droite bête et méchante, quoi, l'opposition de droite et méchante?
Sûrement pas. Moi, sur le discours, je ne peux que partager votre appréciation. Ce discours, il date du 14 janvier 2014. Donc, il y a maintenant près de 9 mois. C'est François Hollande qui l'a tenu. C'est une forme de changement. Il nous a parlé à l'époque du pacte de responsabilité. C'était un changement de cap que, personnellement, je ne pouvais que qu'approuvé sur le fond, sur les objectifs. C'était d'ailleurs pour lui un terrible reniement. C'était l'inverse de ce qu'il avait soutenu, défendu ardemment, avec des symboles forts pendant la campagne présidentielle. C'était le symbole qu'il se reniait et que quelque part, il disait aux Français qu'il les avait trompés ou que lui s'était trompé. Donc, naturellement, mais aujourd'hui, nous sommes en septembre. Que s'est-il passé depuis le 14 janvier ? Quasiment rien. Est-ce que les dépenses publiques ont diminué ? Non, les dépenses publiques continuent à augmenter. Est-ce que les déficits publics se sont résorbés ? Non, ils seront plus importants cette année que l'année dernière. Est-ce que la dette a diminué ? Non, la dette a franchi, je le disais il y a quelques instants, ce cap historique, symbolique, 2000 milliards d'euros de dette. C'est-à-dire 30 000 euros, je crois, par Français. Donc tous les indicateurs ont continué à se dégrader. On entend des discours. Monsieur Valls, oui. et je l'ai dit encore tout à l'heure, il est parfait dans les discours. Il a été d'ailleurs en tant que ministre de l'Intérieur aussi. Souvent, j'ai approuvé
ça a été un bon son, ministre de son message.
Ça a été un très mauvais ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y avait il y avait un écart considérable entre ses discours et ses résultats, et ses actes, donc, parce que pour avoir des résultats, il faut des actes. Monsieur Valls est un orfèvre en matière de communication. On voit bien aujourd'hui sa stratégie. Il joue, il s'installe dans l'habit du Premier ministre réformateur, courageux, un peu d'ailleurs en contre-image de ce qu'est François Hollande. Lui décide, lui il a de l'autorité, mais à la sortie, où sont les résultats ? Où sont les actes depuis qu'il est Premier ministre ?
Vous dites qu'il y a une double crise politique et économique et pour le reste, il n'y a plus de la com de la part de l'exécutif.
Ne croyez pas que mon appréciation sur son passage à Beauvau s'inscrive dans un cadre purement binaire. Je suis dans l'opposition, il est dans la majorité, donc ce qu'il fait est mauvais. Regardons les chiffres de la sécurité. Ils n'ont jamais été aussi élevés. Regardons les chiffres de l'immigration, deux compétences essentielles d'un ministre de l'Intérieur. Les expulsions ont diminué de 33% en 2013 et les régularisations de clandestins ont augmenté fortement, ce qui a provoqué un appel d'air en matière d'immigration clandestine. Les demandeurs d'asile n'ont jamais été aussi élevés. Donc
ça a été un mauvais ministre de l'Intérieur. Disons, et aujourd'hui, c'est un mauvais Premier ministre,
en tout cas,
que de la com.
En tout cas, il y a un écart considérable entre des discours qu'il m'arrive d'approuver, quand il exprime une autorité, quand il exprime cette nécessité de gouverner avec dignité, comment ne l'approuverions-nous pas ?
Quand il propose un pacte de responsabilité qu'il entend mettre
quand
en œuvre.
Quand il soutient les entreprises, il a raison, mais où sont,
quand il fait un tabac devant le MEDEF, vous êtes content.
Où sont les actes ? Où est la diminution des charges tant attendues par les entreprises ? Où est la simplification ? Où est l'allègement du code du travail ? Là encore, j'ai envie de lui dire maintenant, passons des paroles aux actes.
Mais les seuils sociaux, pardon, Véronique, oui. Sur les seuils sociaux, c'est en train d'être sur la table. Et c'est
Il a renvoyé important. Ça à une négociation syndicale, sociale. On sait très bien que jamais cette modification, cette suppression des seuils sociaux qui, au demeurant, empêche notre pays de créer 300 000 emplois. Je crois que la disparition ou le relèvement de certains seuils sociaux, selon certaines études, analyses économiques, pourrait créer 300 000 emplois. Il ne le fait pas. Il renvoie ça à la négociation sociale partenariale. On sait très bien, il faut arrêter aujourd'hui, que ça n'aboutira pas parce qu'il y a des syndicats qui sont prisonniers de leur archaïsme et qui sont contre tout mouvement, contre toute réforme. Et donc, ça ne peut pas aboutir. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Mais là aussi, on voit bien qu'il est prisonnier de l'aile gauche. On dirait que cette voiture a deux volants. Monsieur Hollande qui, de temps en temps, tient le volant droit. Et puis, quand il se fait peur parce qu'il sort un peu de la route, il se remet sur l'autre siège.
C'est le principe de l'auto-école, non ?
Il conduit à gauche, oui, mais l'auto-école, c'est quand on ne sait pas conduire.
Alors justement, on parlait de sortie de route il y a un instant, entre la crise politique, la crise économique. Alors vous y allez pas de main molle. Hein. Je cite François Fillon, c'est un mai 68 moral, un naufrage de la dignité de l'État. Vous nous avez pas dit autre chose, François Fillon, bien qui demande tout simplement une dissolution, démission du président Hollande. Vous n'avez pas l'impression que cela ferait encore plus de chaos, que cela ferait justement le jeu d'un Front National qu'on voit décidément très haut dans les sondages.
Écoutez, ce pouvoir est à bout de souffle. Je disais tout à l'heure qu'il aura vraisemblablement la majorité la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, je n'en doute pas, mais on voit bien, et même certains socialistes en privé ne s'en cachent plus, des collègues que l'on rencontre à l'Assemblée nationale, que pour eux c'est presque un calvaire, que
ils vous disent comme ça, c'est un calvaire.
C'est une difficulté, ils ont une vision très critique sur la situation de la majorité aujourd'hui, donc c'est un pouvoir qui est en bout de souffle. Moi je suis respectueux des institutions républicaines, mais on est en crise économique, on est en crise sociale, on est en crise morale, en crise politique, et on va vers une crise de régime. Et quand il y a crise de régime, la seule façon en démocratie d'en sortir, c'est d'être relégitimé par le peuple, c'est de retourner vers le peuple, c'est de demander la confiance du peuple. Alors, il y a des solutions, il y a des vecteurs, il y a la dissolution, il y a la démission, bon, peu importe. Ce qu'a dit François Fillon, c'est que pour dénouer une crise de régime, et nous y sommes presque, la seule solution, si on veut éviter le conflit, eh bien, si on veut éviter la tension pour notre société, ce qui serait inadmissible, intolérable, insupportable, c'est de retourner au peuple. Et donc, je crois qu'on va y aller.
En quoi ça arrangerait les affaires? C'est juste un mouvement de balancier. Est-ce que la droite aurait intérêt à aller au gouvernement vous y perdez des plumes pour 2017?
Le problème, c'est pas l'intérêt de la droite. Ouais. C'est l'intérêt du pays, si vous permettez. Moi, je ne suis pas engagé en politique, je ne suis pas engagé au sein de l'UMP pour défendre les intérêts de l'UMP. Je suis engagé au service de conviction pour mon pays. Pourquoi ce serait l'intérêt du pays? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne me résous pas à laisser aux Français le choix absolument dramatique entre la faillite socialisme et l'impasse extrémiste. Aujourd'hui, on en est là. Certains sondages, d'ailleurs,
Mais vous proposez quoi? Vous n'avez pas de leader? Vous n'avez pas d'idée?
Écoutez, les idées, nous les avons. Je crois que les idées et le projet est sur la table et nous y travaillons, et avec François Fillon, mais d'autres l'ont fait aussi.
Force est de vous reconnaître que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, même dans le cadre de la cohabitation.
Nous avons une idée très précise sur la façon dont il faut redresser le pays, je dirais, même dans le détail, avec une vraie volonté de changement, de rupture radicale. C'est le projet que propose François Fillon. Quant au leader, là aussi, on a une procédure très simple, c'est celle des primaires, qui doit nous permettre de choisir un candidat, un seul. C'est un impératif. C'est un impératif pour gagner.
Là, on parlait de 2017, là, on parlait de...
On peut le faire
de maintenant.
On y reviendra. Mais cette menace du Front National, est-ce que vous pensez, à l'instar du Premier ministre Valls, que l'extrême droite, et on l'a vu au travers des derniers sondages, est véritablement aujourd'hui aux portes du pouvoir? On peut même se poser la question si l'UMP sera encore dans la course en 2017, quoi.
C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est une question qui est cruciale pour nous. Nous avons le devoir de l'unité, parce que nous sommes les seuls à porter cette espérance pour le pays. Ça peut paraître prétentieux et audacieux de dire ça aujourd'hui, mais encore une fois, quelle situation dramatique, laisser le choix entre les socialistes qui ont failli, qui ont échoué sur tous les domaines, et le Front National qui serait une impasse absolue, parce que le Front National au pouvoir, c'est l'effondrement quasi instantané de notre pays. C'est un effondrement économique, puisque le programme de Marine Le Pen est un programme d'extrême gauche. La sortie de l'euro aboutirait à un effondrement instantané de l'économie, de nos entreprises, et imaginez un seul instant que la France puisse être représentée par le Front National, ce serait aussi une forme de faillite morale. Donc il faut...
On ajouterait la faillite morale à la faillite morale.
On ajouterait une crise encore beaucoup plus grave. Et les Français ont déjà été trompés par François Hollande. Il ne faut pas qu'ils se laissent abuser par le Front National.
Et vous êtes le seul rempart contre le Front National?
Oui, c'est l'UMP qui est le seul rempart contre le Front National. Qui est le rempart aujourd'hui? Est-ce que c'est François Hollande? Jamais le Front National n'a été aussi haut que depuis que François Hollande est au pouvoir. C'est assez classique d'ailleurs. Le Front National monte mécaniquement quand les socialistes sont au pouvoir.
Et bien justement, nous en parlerons juste après le rappel des titres. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. Après les infos, on se retrouve pour parler, entre autres, du retour annoncé de Nicolas Sarkozy.